Présente-moi.
Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Nicolas Sauret. Je suis maître de conférence à l'Université Paris 8. Je présente Marcello Vitali-Rosati, qui est directeur de la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques, donc à l'Université de Montréal. C'est une chaire qui s'est ouverte en 2012, je crois, ou 2013.
15.
2015, ok.
Ouais.
Également, tout récemment, directeur de la chaire d'excellence en édition numérique de l'Université de Rouen. Donc, elle qui s'est tout juste lancée il y a 15 jours. Et donc, tu nous présentes aujourd'hui une conférence qui s'appelle Bricoler, manipuler, casser, réfléchir avec du code. Et donc, on t'écoute et puis on ouvrira à la discussion ensuite.
Merci beaucoup Nicolas, merci à toutes et à tous de cette invitation. Ça me fait très plaisir. Je dois dire que ça fait beaucoup de temps que je suis vos travaux à distance sans avoir jamais le temps de me connecter, mais que j'ai trouvé ce que vous faites absolument passionnant et intéressant. Ce sont des pratiques qui m'intéressent beaucoup et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, ça n'a aucune prétention, hein, c'est vraiment faire un retour sur mes propres pratiques, sur ce que j'en fais moi et donc partager avec vous des bricolages justement et mes réflexions sur l'apport que ce type de pratique, donc la pratique du notebook, a dans ma manière de faire de la recherche et aussi d'enseigner. Donc voilà, je pense que je vous apprendrai rien. J'aimerais juste lancer, avoir des discussions avec vous qui partagez cette passion. Évidemment, pour moi, le point de départ, hein, est un point de départ de critique par rapport au domaine dans lequel je me trouve. Et à donc littérature et disons au rapport aux technologies et aux environnements numériques d'une bonne partie de la communauté bon, en sciences humaines, mais en particulier en littérature. Et c'est celui du rapport, et évidemment qui concerne aussi les grands publics, hein, en dehors de la recherche, c'est justement le rapport à la technologie, un mode lampe d'Aladin. C'est-à-dire, bah, la technologie, c'est présente, c'est un peu ce que dont parle Eugenie Moreau de Zofin quand il parle du solutionnisme de la Silicon Valley. Et bah, en fait, il y a l'outil, la solution qui résout nos problèmes. En fait, complètement opaque, évidemment. On ne sait pas ce que ça fait, on ne sait pas comment ça marche. En fait, on s'en fout un peu de comment ça marche. L'important, c'est que ça donne la solution, c'est la réponse au problème, l'outil miracle, hein. C'est un peu cette idée, c'est une idée qui nous concerne de plus en plus de façon généralisée dans nos pratiques quotidiennes. Les téléphones cellulaires, le smartphone en est l'exemple parfait, hein, la solution à tous les problèmes. Tu veux aller à l'université, je te dis le meilleur chemin. Tu veux aller au restaurant avant même que t'aies faim, bah, je te donne là où tu dois aller, etc., etc. Mais cette attitude-là qui concerne du coup de façon forte les pratiques grand public commence, ou peut-être fini d'ailleurs, est très présente aussi dans les domaines de recherche. Et récemment, je la vois aussi dans les colloques de Digital Humanities, ce qui est encore plus étonnant. L'outil miracle, le LLM qui fait tout, et en fait, auquel je demande des réponses, il me donne les réponses peut-être même avant que je pose la question. C'est la rhétorique qui est derrière, très souvent, et la rhétorique du fonctionnel, du simple, du performant. Ça marche, hein. C'est très simple et ça performe bien. J'ai entendu récemment, et j'avais envie de mourir, dans des colloques de Digital Humanities, des gens qui disent que ChatGPT fait du HTR mieux que e-scriptorium, par exemple. Et hélas, les risques, c'est que selon la rhétorique du simple et performant, ça devienne aussi vrai. hein, avec un investissement computationnel qui n'a aucun sens, ben on arrive à avoir des résultats justement qui sont étonnamment bons et certes qui demandent aucun effort intellectuel et du coup par rapport à quelqu'un qui a transcrit sur eScriptorium 60 pages de son manuscrit et puis il a entraîné un modèle et puis il a un résultat final, ben à la place de ça il met dans ChatGPT ses pages à transcrire et il a une sortie. En effet, c'est simple, c'est performant, c'est fonctionnel, et peut-être à la fin les résultats vont être même plus performants que ceux de eScriptorium. En fait, je pense que le problème, alors Chomsky disait en 2018 dans un colloque sur l'intelligence artificielle, disait je savais pas que la notion de succès semble être rentrée dans les sciences récemment. C'est une nouvelle notion, succès ou pas succès, alors que la science, selon un Chomsky, certes un peu peut-être vieux style, mais je trouve cette phrase plutôt sympa. Cette notion de succès ne devrait pas être la chose principale en science, parce que la chose principale en science, c'est plutôt la recherche de la vérité et la connaissance. C'est la raison pour laquelle j'ai fait, justement, je me fais un peu de publicité, c'est la raison pour laquelle j'ai fait un éloge du bug. Je pense que le bug, le non-fonctionnement, le dysfonctionnement, le fait que quelque chose se casse, c'est à ça que devrait ressembler la recherche. Pas à performer, pas à donner des résultats, mais plutôt à questionner et à réfléchir, à chercher. Et la recherche, au moins la recherche fondamentale, qui est celle que j'essaie de défendre dans mon éloge du bug et en général dans mon approche à la technologie. Je pense qu'il faut que ça marche pas. Je pense qu'il faut que ça donne pas des résultats. Je pense que il faut pas gagner du temps comme ChatGPT qui nous fait gagner du temps dans notre transcription à HTR, mais il faut en perdre. Mon impératif n'est pas un impératif de gagner du temps, mais c'est plutôt celui d'en perdre. Je pense qu'en tant que chercheurs et chercheuses, nous devrions être des oisifs militants. Et c'est à partir de là que le rapport à la technologie, pour moi, est complètement différent. Il ne s'agit pas d'utiliser des solutions pour gagner du temps, améliorer les résultats. Il s'agit de profiter de la technologie pour approfondir notre questionnement oisif et donc critique de la connaissance, de ce que nous essayons de comprendre du monde, du sens, et peut-être, il faut aussi oser le dire, de la vérité. Donc pour moi, l'éloge du bug est aussi est un éloge de la philosophie, hein, l'éloge de la philosophie telle que on la voit dans les personnages de Socrate, avec son démon qui le bloque à chaque fois, qui l'empêche de faire, dit Socrate dans le Phèdre, le démon qui m'empêche toujours de faire ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que les démons ne le bloquent pas au moment où il est en train de faire quelque chose de mauvais, ils le bloquent tout le temps. Ça marche pas. Socrate, il bug. Et ça, c'est ce qui me semble le but ultime de la recherche fondamentale, en particulier de la philosophie, c'est de ne pas fonctionner. C'est de ne servir à rien. D'où mon intérêt pour les notebooks et là vous voyez que mon intérêt dans les notebooks n'est pas du tout pour améliorer la performance de la recherche, mon intérêt pour les notebooks n'est pas pour faire plus vite, mon intérêt pour les notebooks n'est pas pour avoir des meilleurs résultats ou pour mieux gérer les données. Mon intérêt pour les notebooks, c'est le bricolage, la réflexion, la résistance d'une matérialité qui souvent nous pose des questions, résiste à notre tentative de manipulation et nous oblige à peaufiner nos modèles théoriques. C'est ça le point. Je vis au moins, hélas, dans une communauté des recherches qui est caractérisée pour la plupart par une rhétorique de l'immatérialité très forte, c'est-à-dire, moi je pense, puis j'ai l'ingénieur qui va lui mettre les mains à la pâte et bricoler un truc. Évidemment, moi je pense parce que moi je suis intelligent, puis l'ingénieur il est un peu bête, donc je lui dis quoi faire, et puis il me bricole un truc. Hein. Cette rhétorique-là est très présente dans certains domaines des sciences humaines, on va dire, sans doute au Canada, mais je crois même en France. Et c'est cette rhétorique-là qui me semble pouvoir être questionnée de façon radicale avec une approche plus matérialiste et avec une approche justement qui va à la recherche du bug, avec une approche qui va à la recherche du bricolage comme lieu de l'émergence de la pensée critique. C'est-à-dire que l'idée de dire « moi je pense, puis l'ingénieur me bricole un truc » est une idée qui cache quelque chose de très important, c'est-à-dire qui cache le fait que le modèle théorique riche est celui qui émerge d'une manipulation longue, d'un long bricolage. C'est-à-dire que là, et de l'autre côté, une théorie immatérielle, hein, moi j'ai pensé les modèles, et puis il y a l'ingénieur, alors je le vois beaucoup hein, pour les modèles textuels, je travaille surtout sur ça, je travaille surtout sur les textes, donc pas en géographie justement, pas dans un domaine où la présence des données est quelque chose d'assez acquis, bah, en littérature beaucoup moins, hein, penser la littérature avec l'idée des données n'est pas si courant que ça, et donc il y a un peu l'idée, hein, moi j'ai mon modèle textuel, moi je sais ce que je veux dire, ce que c'est que le texte de Racine, des tragédies de Racine, je le sais, et puis en fait j'ai mon modèle épistémologique dans ma tête, mais quand même je vais pas mettre les mains dans un XML, ça c'est des choses triviales, hein, je vais les laisser à des petites mains, comme le dit Margot Mellet. En fait, cette théorie immatérielle de fait n'est qu'une manipulation pauvre et paresseuse, c'est-à-dire que le modèle qui est derrière est finalement un modèle assez vague, abstrait dans le sens de pauvre, hein, pour une fois. Et le modèle se précise seulement au moment où on commence à toucher au texte, à bricoler avec le texte. Et pour moi, les notebooks sont une manière de le faire. Alors là, derrière, en fond, je vous ai mis, pendant une assemblée des départements, on se pose la question s'il y avait un lien entre des sujets des thèses et le fait que l'autrice fasse ou l'auteur fasse partie d'une minorité. Et là pendant que on faisait l'assemblée, je me suis mis et j'ai ouvert un Jupyter Notebook et j'ai commencé à utiliser l'API de thèse.fr et en fait je me suis rendu compte que c'était de toutes les questions théoriques que cette question posait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire partie d'une minorité? Et évidemment, là, j'avais commencé à faire j'ai récupéré des listes des prénoms masculins, féminins. Bah, ça pose évidemment plein de problèmes. Est-ce que ça être avoir un prénom qui fait partie d'une liste qui est une liste de prénoms comme considéré comme prénom féminin signifie faire partie d'une minorité ou pas sûr, très problématique en tout cas, comment je fais pour interroger, comment est-ce que cette question a du sens finalement, est-ce qu'on peut avoir vraiment des informations par rapport à cette question, bah c'est quand on commence à jouer avec l'API et jouer avec les dictionnaires, les listes de prénoms ou à chercher ce qu'il peut y avoir dans les données qui me donnent une incarnation quelconque de cette question-là, donc qui rendent cette question une question bien posée, une question bien structurée d'un point de vue théorique, hein, ben en fait c'est là en regardant quels sont les champs de l'API thèse.fr qui par ailleurs au moins à l'époque me répondait une fois sur trois, mais bon ça c'est une autre question matérielle, c'est là que la question s'est précise, c'est là que on s'est rend compte du fait que la question initiale était peut-être pas très bien posée, ou en tout cas qu'elle impliquait des problèmes, des problématiques théoriques, éthiques, politiques, qu'on n'avait pas vu au début et qu'on n'avait pas vu justement parce que notre modèle initial était trop abstrait. Le fait de se dire bon ok, comment j'incarne cette question, donc faire partie d'une minorité, ça veut dire quoi dans un modèle formel? Et là, je me dis, bah, finalement, la seule chose que j'arrive à trouver, c'est des listes des noms, des prénoms. Bah, c'est là qu'on arrive à préciser un modèle. C'est ça que j'entends par manipulation. Alors là, l'exemple était avec celui-là, parce que j'ai recherché pour préparer cette présentation mes différents bricolages et je suis tombé sur celui-là. Mais évidemment, c'est la même chose dans beaucoup d'autres cas. Je vais vous raconter de façon assez rapide hein, une série d'autres exemples. En général, la manipulation du code oblige à spécifier des modèles formels. Là, par modèle formel, je pense vraiment à cette division un peu artificielle, mais somme toute assez utile de Jean-Guy Meunier, de trois étapes de modélisation. Une modélisation théorique, donc le modèle théorique, hein, où je donne une description à un langage naturel d'une chose, par exemple, qu'est-ce qu'un texte, et puis là, je donne une description. Ensuite, ce modèle théorique peut être implémenté dans un modèle formel. Donc, ce modèle formel peut être numérique, c'est-à-dire que bah, je transforme ma description en langage naturel en une description faite par des unités atomiques et discrètes liées entre elles par des fonctions computables. Voilà, ça c'est la description. Et ensuite, je peux l'implémenter, troisième étape, dans un modèle matériel, par exemple un Jupyter Notebook qui est exécuté sur une machine particulière. Bah, en fait, le modèle formel, de façon un peu plus large, peut être considéré comme la transformation du modèle théorique en une série d'énoncés non ambigus. Donc, en effet, la modélisation fonctionnelle est ou numérique est un type de modélisation formelle, mais en général, ce qui m'intéresse, c'est ce passage. Quand on commence à toucher à la matérialité, le modèle théorique doit se préciser et perdre certains caractères d'ambiguïté qui finalement constituent hein, une pensée inachevée. C'est ça le point. Donc la manipulation du code, là derrière vous avez les requêtes stylo. Hein. On joue avec, ça c'est une autre utilisation que j'ai fait souvent des Jupyter Notebook, c'est jouer avec, par exemple ici, l'API GraphQL de Stilo pour voir ce que je peux faire et pour comprendre si le concept de la modélisation de l'article scientifique que fait Stilo est satisfaisante par rapport à ma volonté de pouvoir utiliser ce modèle. Donc ça c'est seulement en faisant la requête et puis en essayant de dire bon ok mais là si un article a des tags comment est faite l'API, est-ce que je peux faire un filtre avec les tags ou pas, est-ce que ça a du sens de se filtrer par les tags ou pas, est-ce que les tags appartiennent à un user ou bien ils appartiennent à l'article, quelle est la différence s'ils appartiennent à l'user ou à l'article. Voilà, bon ça c'est les questions qu'on ne peut se poser qu'en manipulant, mais ce sont des questions évidemment philosophiques, ce sont des questions de théorie, de modèle épistémologique de qu'est-ce qu'un article dans ce cas de stylo. Donc, pour lister un peu mes trois domaines d'usage des notebooks, je dirais qu'il y en a bon, trois peut-être ou deux. L'enseignement, ça en fait partie. Donc, je vais dire un petit mot sur mes usages dans l'enseignement. La question de la modélisation, qui en fait fait peut-être un peu partie de la recherche, mais pas seulement. Donc, en tout cas, le besoin de produire des modèles non ambigus de quelque chose. D'un texte, justement, d'une définition, même une définition d'un concept, peu importe. Ben en fait, le fait d'ouvrir un notebook et de commencer à jouer avec du code, c'est ma manière pour préciser certains modèles de façon formelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est un usage qui est très important. Et puis Pour la recherche un peu plus en général, donc la modélisation fait un peu partie hein, de la recherche, mais pour la recherche un peu plus en général, avec des pratiques très différentes selon les besoins et selon les activités des recherches en question, donc qu'elles soient de l'écriture ou je pense qu'il est intéressant d'aller chercher certaines données pour se poser des questions. Donc je vais vous faire quelques exemples de chacun de ces domaines-là. Donc l'enseignement, depuis longtemps, j'utilise des Jupyter Book dans ces cas pour comme support de cours. Alors là, vous voyez à l'écran, et puis il est facile à trouver en ligne, donc le support de mon séminaire que je suis en train de donner maintenant. Je donne un séminaire sur les LLM. Je donne un séminaire qui est un séminaire de littérature et culture numérique. Donc c'est un séminaire pour des gens en littérature qui n'ont pas beaucoup d'idées, qui n'ont pas beaucoup de littératie numérique. Par exemple, ils font pas du code ou assez peu d'entre eux. Mais c'est un séminaire, donc ce sont des maîtrisants, de maîtrisants, maîtrisantes, doctorantes, donc un niveau assez élevé. Et justement, bon, là évidemment le sujet les LLM se prête particulièrement à avoir un peu de code. Le Jupyter Book me permet de mélanger la partie discursive, les références bibliographiques, justement des images comme ici, et une partie où je leur fais voir ce que ça veut dire avec quelques lignes de code. Donc là, par exemple, pour les perceptrons, l'idée c'était de leur programmer from scratch un perceptron et de façon très très simple, hein, j'ai programmé un perceptron qui faisait juste une régression linéaire pour trouver des chiffres pour faire la différence entre des groupes de chiffres, donc avec des vecteurs à très peu de dimensions. J'avais joué avec d'abord j'avais fait un perceptron juste à une dimension pour essayer de faire suivre tous les calculs des multiplications des vecteurs étape par étape pour essayer de faire voir comment l'établissement du poids s'est fait et comment la loss function fonctionne, hein, et où arrive la fonction d'activation, etc. Et donc pour qu'ils puissent refaire sur donc le notebook permet de regarder vraiment les calculs un par un qu'on peut refaire vraiment à côté avec un calepin pour comprendre exactement ce qui se passe, même si évidemment l'intérêt à la fin d'un perceptron qui fait la différence entre les chiffres plus grands ou plus petits que zéro n'est pas immense, hein. Donc là vous voyez c'est pas du tout les résultats qui est intéressant, mais ce qui est intéressant c'est de pouvoir suivre quelque chose. Évidemment ce qui est intéressant aussi c'est que je l'utilise en cours et j'aime beaucoup produire des erreurs. Le bug, encore une fois, le fait de dire bon, et si je donne cette instruction là, si j'écris ce code là, ben en fait ça marche pas, ça casse, et pourquoi, et apprendre. Je pense que ça c'est une un des devoirs de nous en tant qu'enseignants, c'est de apprendre à aimer les erreurs, à lire par exemple, hein. On a toujours cette impression de quand il y a une erreur on veut pas la voir, c'est moche, j'aime pas, ça marche pas, c'est la seule chose qu'on arrive à dire, alors que en fait si on lit les erreurs, très souvent on apprend plein de choses, puis on explique très souvent le log explique pourquoi il y a une erreur, il l'explique de façon très claire, il suffit de prendre la peine de lire, et en fait l'erreur c'est ce qui nous pointe, très souvent il pointe les limites de notre modélisation. Donc en fait un enseignement, je trouve très intéressant le fait de dire regarde ici ça casse, essayons de comprendre ensemble pourquoi. En fait parce que mon modèle n'était pas bon, il considérait pas par exemple cette exception là. Un exemple que je fais toujours dans les cours vraiment de premier cycle à la base, c'est j'utilise une fonction pour encoder et décoder des caractères et d'avoir les correspondants en binaire d'une lettre. Et donc, je fais A et j'ai les résultats, puis je fais B et j'utilise l'encodage ASCII. Et puis à certains moments, je mets et avec accent, et là, bah ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Bah évidemment, et avec accent ne fait pas partie d'ASCII, et donc en UTF-8 ça marche, mais en ASCII non. Ce qui me permet de me poser la question, bah en fait, pourquoi ça n'existait pas en ASCII? Mon modèle il était pas bon parce que il était pas suffisant, il prenait pas en considération un accent, un caractère accentué qui pourtant est utilisé couramment dans une langue comme le français. Donc ça c'est quelque chose qui m'oblige à spécifier de façon matérielle c'est quoi un « et » pour un ordinateur, hein, comment j'ai modélisé le « et » qui pourtant semble simple. Alors la modélisation de façon un peu plus spécifique, donc au-delà de l'enseignement, c'est le fait, alors là derrière vous voyez des lignes, des codes assez sales, hein. Mon code est toujours très très sale parce que justement j'aime cette partie de bricolage, de tester des choses, d'essayer et de toucher cette matérialité de façon pas très justement qui sans avoir nécessairement une idée très arrêtée avant. C'est pour ça d'ailleurs que ça se prête beaucoup au langage impératif, hein, comme Python, R, Julia, etc. Évidemment, ça serait beaucoup plus compliqué et peut-être dépourvu de sens de le faire avec un langage fonctionnel comme Haskell, où la définition du modèle doit être faite de façon beaucoup plus précise. Les modèles formels doivent préexister au moment où on fait tourner les codes. Mais bon, ça c'est une autre question dont on pourra peut-être discuter dans tout à l'heure. Je vais essayer de finir en 2 minutes, Nicolas. Et donc là ici c'était la modélisation, c'était qu'est-ce qu'un livre augmenté? Et là c'était un jeu qu'on a fait aussi avec Nicolas sur le ce qu'on appelle les pressoirs. Aujourd'hui c'est un générateur de sites statiques pour créer des collections de livres augmentés qu'on utilise pour parcours numérique au Presse de l'Université de Montréal, qu'on utilise aux ateliers des sciences publiques, notamment avec Nicolas et Servan Monjour, Hélène Beauchef, David Larlet qui a permis de créer les codes. Mais très souvent, pour en fait, le bricolage sur notebook nous permet de préciser le modèle théorique, de se dire bon, ok, un livre a des chapitres, les chapitres ont des contenus additionnels, c'est quoi un contenu additionnel, c'est quoi les descripteurs de ces contenus, comment j'ai fait ensuite pour rappeler des index, est-ce que j'ai besoin de ce type de balisage pour spécifier le type de contenu additionnel qui est lié à un chapitre. Mais ça c'est des choses qu'on voit au fur et à mesure que on fait tourner du code. Et finalement la recherche, c'est-à-dire n'importe quel type de question peut passer par là. Ici, c'était les débuts. En fait, c'est la première chose que j'ai faite quand j'ai commencé à écrire mon livre « L'éloge du bug » qui a du coup sorti cette année. Et en fait, la première chose, et ça fait longtemps, je sais plus quand est-ce que j'avais commencé, je pense en 2021, une chose comme ça. Et en fait, la première chose que je me suis dit, c'était ce qui me déranger, ce qui était un peu un déclencheur de l'écriture du livre, c'était le terme intuitif qui vient tout le temps, qui revient tout le temps. Donc intuitif, c'est intuitif, l'iPhone, c'est intuitif. Moi, je trouve ça complètement bête, ça veut rien dire que c'est intuitif. Et puis les enfants savent l'utiliser. Bah, les enfants savent l'utiliser parce que si on leur donne quand ils ont 2 mois, bah, c'est clair qu'après, ils apprennent à utiliser. Mais c'est pas parce que c'est intuitif, c'est parce qu'ils l'ont dans les mains depuis qu'ils ont 2 mois. Ma fille, elle a 8 ans, elle est incapable de se servir d'un téléphone. Moi, j'en ai pas. Donc, je me posais la question de l'intuitif, hein. Et en fait, la première chose que j'avais faite, c'est que j'étais allé chercher sur les newsrooms de Google, de Amazon et de je sais plus qui d'autre. J'avais fait du web scraping pour récupérer tous les articles et regarder la fréquence des termes intuitifs, simples, performants. Donc ma recherche était commencée par là. En fait, on apprend des choses de cette manière. Bon, là c'est une approche assez basique de text analysis, mais voilà, ça peut être le point de départ d'une réflexion théorique qui ensuite a donné lieu à un livre, le livre dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, quand même quelques dangers pour clore, parce que les Jupyter Notebook c'est génial, mais il faut faire attention, à mon avis, à un certain nombre de risques, et je parle pour moi, hein, en premier. Là, vous voyez une carte entre parenthèses qu'on a faite en utilisant les données alignées du projet Anthologie Palatine, Anthologie grecque, que l'édition donc numérique participative de l'Anthologie grecque. Et en fait, on s'est amusé à retrouver, à aligner tous les lieux cités avec leur Wikidata. Et puis, en utilisant l'API Wikidata, on a récupéré les coordonnées, on a mis les villes dans une carte. Et du coup, ces villes sont liées à des épigrammes. Je suis pas sûr d'ailleurs que la visualisation soit la bonne, mais voilà. Ah non, ça c'était une autre chose. C'était une carte que j'ai faite. Ah, ça c'était une autre chose intéressante pour la recherche. C'était une carte que j'ai faite pour afficher les lieux de naissance des personnes que j'ai citées dans un livre, pour voir à quel point je suis en fait j'ai un biais super fort occidental. Vous voyez que à part une personne, et je pense que là-dedans, ça doit être un philosophe arabe probablement. Pour les restes, évidemment, pour les restes, je m'aperçois dans cette visualisation-là. J'ai fait du coup une recherche dans ma bibliographie. J'ai fait un algorithme qui recherche un wiki, un identifiant Wikidata pour chaque personne citée. Et puis j'ai cherché leur ville de naissance et je les ai placés dans une carte. Donc voilà, vous voyez là, c'était révélé un biais dans ma littérature en fait. Un biais assez évident, mais là j'essayais du coup de les corriger. Bon, donc les risques de paresse. Alors, un des risques, c'est la magie des langages de haut niveau comme Python, des librairies de très haut niveau finalement permettent de faire des choses très complexes sans avoir aucune idée de ce qu'on est en train de faire. Là, quand on regarde justement les usages typiquement avec les LLM, moi j'aime programmer un perceptron from scratch, j'aime programmer un transformer from scratch qui va me donner des résultats absolument horribles, inutilisables, parce qu'il n'est pas capable évidemment de parler. Un transformer que j'entraîne sur mon ordinateur de 2008, il dit n'importe quoi, mais en fait je comprends comment ça marche. Alors que si j'ai fait import gensim et puis je télécharge des librairies très haut niveau, en fait je fais un chatbot niveau chat GPT 3, trois lignes de code. Évidemment, j'ai rien compris à ce que j'ai fait. C'est exactement la même chose que utiliser chat GPT en ligne. Hein. Donc là, c'est les grands risques. Alors ça, c'est vraiment très haut niveau. Mais en général, je le vois même les librairies qui permettent d'utiliser certaines API. Hein, l'utilisation de la librairie fait perdre complètement le rapport avec cette matérialité dont je parlais. Donc déjà, les langages sont de haut niveau et les librairies les rendent d'un niveau tel où pratiquement on parle un langage naturel. Et puis cet intérêt de bricoler, de casser, se perd complètement. L'autre risque, c'est en effet, c'est un environnement qui se prête particulièrement à tout faire dedans. Et moi, j'ai toujours peur quand il y a cette concentration d'usage. Donc, à un certain moment, on s'est dit, à quel point le notebook va me porter à toujours faire la même chose, alors que peut-être, si j'ai questionné mon environnement de travail, je pourrais faire autre chose. Et l'autre point, c'est celui d'une modélisation un peu brouillonne, qui est rendue possible, en effet, par les langages impératifs. C'est-à-dire que au fur et à mesure que j'ai, et en particulier par les langages impératifs utilisés dans le cadre d'un notebook, au fur et à mesure je fais tourner un truc, puis je me pose une question à la fois, puis je reviens déçu, puis j'ai fait tourner ma cellule qui est trois lignes plus haut parce que finalement je remplis à nouveau cette variable là, puis en fait moi je suis très brouillon comme vous l'avez vu, et je pense que la paresse de rester brouillon est un des risques des notebooks avec les langages impératifs. Alors typiquement, je pense que l'utilisation combinée d'autres environnements de programmation et d'écriture doit toujours rester là. Est-ce que je suis capable de faire un Haskell justement la même chose que je viens de faire en Python? Là, il y a une nécessité, par exemple, d'étiquetage strict qui est complètement différente. Il y a une nécessité des définitions de fonctions sans side effects, donc qui ne font rien en fait, mais qui du coup définissent de façon complètement théorique le modèle et de façon beaucoup plus précise. Donc voilà, je dirais que c'est un outil très intéressant. C'est un outil aux usages multiples, évidemment, plusieurs langages de programmation, plusieurs types d'usages différents, du Jupyterbook au cahier qu'on utilise juste pour prendre des notes et pour ébaucher une réflexion. Mais il faut toujours faire attention à ne pas généraliser les usages. Et une dernière chose que je dirais, et là je serais vraiment content aussi d'entendre vos expériences là-dessus. Je ne sais pas quelles infrastructures vous utilisez. J'ai vu que vous avez utilisé Callisto. Moi aussi, à une époque, je l'utilisais. Hélas, il n'existe plus. Pour moi, Colab est un autre risque lié au Jupyter Notebook, c'est-à-dire, et typiquement, hein, quand on rentre dans des pratiques qui ont affaire à des besoins computationnels plus importants. Justement, j'importe GenSim et puis un LLM de 30 gigas. Bon, là, évidemment, je peux pas le faire avec mon ordi et du coup, je vais sur Colab. Et puis, en fait, selon moi, c'est un grand risque parce qu'en fait, ça nous rend encore plus dépendants des GAFAM et voilà. Ça bride énormément notre liberté et notre liberté de réflexion aussi. Merci beaucoup.
Merci. On va te retrouver. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a tout de suite des questions. Moi, j'ai préparé plein de questions, donc peut-être on peut commencer par ça, sauf s'il y a tout de suite quelqu'un qui veut sauter sur le. Alors moi, je voulais revenir sur cet éloge du bug, parce que je vois une sorte de tension hein, dans ce que tu disais, dans ce que tu écris aussi, entre une certaine éloge de l'oisiveté, c'est l'oisiveté du philosophe, et puis aussi une éloge de l'effort. Et donc, je me demandais comment tu résolvais cette tension, sachant qu'à la fin de ta présentation, on n'est plus sur l'oisiveté, mais on est sur la paresse. Donc, voilà, est-ce que tu pourrais nous donner quelques pistes sur où se positionner?
Oui, mais parce que la paresse n'est pas l'oisiveté. L'oisiveté demande des efforts, justement. Il faut travailler pour être oisif. Pour être plus précis, je voudrais citer un passage du Phèdre, justement, de Platon, qui est super intéressant pour illustrer cette différence hein, entre la paresse et l'oisiveté. L'oisiveté, par oisiveté, j'entends, c'est qu'en grec, on dit scolé. En latin, c'est otium. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la scolé, elle, comme otium, elle est terme positif qu'on rend négatif avec un alpha privatif, et la scolia, et en latin, avec les ne, les negotium, donc le contraire que l'otium, les contraires que l'oisivité, la scolia, les contraires que la scolée, est le travail. Donc en fait, le travail, vous voyez, c'est l'inverse que dans notre culture où le côté positif, c'est l'occupation et puis c'est la désoccupation. Hein. En fait, là, en grec et en latin, c'est l'inverse. Le terme positif, c'est scolé, donc l'oisiveté, et otium en latin. Et en fait, dans les Phèdres, il y a un moment génial où Socrate, il demande à Phèdre, il dit, OK, on a fini de discuter, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a en gros deux possibilités. On se met à dormir, ou alors, donc ça c'est la paresse, ou alors on fait comme les cigales qui sont là, donc il y a les cigales qui chantent, hein. On est à midi à côté d'Athènes, il y a les cigales qui chantent, et en fait les cigales qui sont en effet le symbole même de l'oisiveté, et Socrate il raconte l'histoire des cigales, donc ce mythe des cigales qui est une espèce de renversement de l'histoire d'Ésope, hein, de la cigale et la fourmi. Et où il dit, les cigales, en fait, elles étaient tellement engagées à chanter pour faire l'éloge des muses, qu'en fait, elles sont mortes de faim parce qu'elles étaient trop occupées pour chanter. Là, c'est l'oisiveté militante. C'est le fait de dire, en fait, je suis complètement engagé dans cette oisiveté, dans, par exemple, la réflexion et la recherche de la connaissance, dans la recherche de la vérité, qui est du coup oisive, on ne produit rien, on cherche, on chante. Mais la paresse, c'est l'inverse. La paresse, c'est, dit Socrate, bah, l'autre chose, c'est qu'en effet, je peux m'allonger ici sous le truc et puis dormir parce que je suis fatigué. Mais en fait, qui dort? Bah, celui qui a travaillé. Alors que l'oisiveté est un non-travail, ce qui n'est pas du tout, à mon avis, ce qu'il faut pas du tout prendre comme quelque chose, parce que ça pourrait être l'autre remarque, hein, une espèce de morale aristocrate contre les travails, moi je travaille pas, j'ai les mains propres, etc. Ben non, le contraire, parce que l'oisiveté finalement aujourd'hui, c'est de mettre la main à la pâte, c'est de cultiver nous-mêmes notre jardin, ça c'est oisif. Parce que de l'autre côté, on a la productivité des applications, de l'immatérialité, de la délivrance des tâches les plus basses, parce que moi, je m'occupe de diriger l'entreprise. Voilà, ça serait mon point. C'est-à-dire, ne soyons pas paresseux, salissons-nous les mains à faire des choses qui sont considérées finalement moins importantes, hein, tu sais, la trivialité des choses matérielles, mais c'est là, c'est dédiant à chanter l'éloge de ces choses triviales que nous pouvons être véritablement oisifs. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Oui, merci. J'ai une autre question sur cette rhétorique de l'immatérialité, où tu as rappelé une autre tension, hein, celle entre des chercheurs et des ingénieurs. Je pense que ça fera écho à beaucoup de gens. C'est, à mon avis, surtout l'histoire d'une frustration partagée, celle des chercheurs de ne pas savoir et celle des ingénieurs de ne pas être présentés comme ceux qui pensent. Et là, selon moi, c'est surtout une question de littératie et du coup de non-littératie des chercheurs, hein, qui ont besoin du coup des lettrés de l'informatique. Donc je me demandais par rapport aux notebooks, est-ce que à nouveau ici les notebooks réouvrent une possibilité de littératie, hein, et de par exemple dans ton enseignement du master en littérature qui découvre le perceptron à travers un notebook, au doctorant qui lui va programmer et penser en programmant, quel chemin toi tu permets de faire parcourir à travers ton ta chaire. Moi, je me souviens quand j'ai quitté Montréal, on était dans l'équipe de la chaire, on était il y avait quoi, une, deux, trois personnes peut-être qui codaient ou qui bricolaient. Et j'ai l'impression aujourd'hui, donc quelques années plus tard, que vous avez beaucoup d'étudiants qui s'y sont mis. Et donc je me demandais comment, à la chaire, vous avez fait ce chemin, comment tu as amené les étudiants à cette programmation pour penser.
Oui, merci. En effet, maintenant, disons le bricolage, c'est un peu naturalisé. Je pense que en ce qui me concerne, comme tu le sais, ma littératie s'est développée avec vous, avec toi notamment, hein, qui a été un des premiers profils un peu plus techniques venu au labo. Et du coup, moi, j'ai toujours été un bricoleur, mais ma littératie était assez limitée. Et puis, on s'est mis à jouer ensemble. Comment on fait aujourd'hui? Ben, en fait, aujourd'hui, j'ai la force d'avoir un groupe de personnes autour de moi qui partagent ce type de valeurs. Et du coup, qui rend la transmission aux plus jeunes et aux nouveaux et nouvelles venues très simple, très facile. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de bricoler. Et typiquement, les notebooks, en effet, aident beaucoup parce que il y a cette approche au code très progressive, hein, je peux faire tourner une seule ligne de code, puis la faire retourner, etc. Donc là, il y a une dimension pédagogique qui aide beaucoup. Alors après, il y a la question un peu plus de fond, c'est... est-ce que cette littératie-là, qui en effet aujourd'hui concerne un groupe, assez petit finalement de de personnes, parce que moi, dans mon laboratoire, nous sommes, même s'il y a pas mal de gens, mais nous sommes minoritaires par rapport à tout ce qui se passe dans les restes des départements montréalais. Donc, c'est pas une majorité des personnes. Alors, la question qu'il faudrait essayer de poser, c'est de quelle manière on peut rendre ces pratiques généralisables aussi pour un public plus large, alors typiquement pour d'autres chercheurs déjà établis. Bon, là, je suis un peu plus pessimiste parce que je vois beaucoup de résistance même devant un Jupyter Notebook. Mais en effet, encore une fois, le Jupyter Notebook a l'avantage de pouvoir être lu comme du texte. On peut écrire beaucoup en langage naturel et accompagner et donc mettre en avant cette dimension discursive par rapport à la dimension plus de code, donc la dimension purement algorithmique, et ça permet aussi peut-être d'atteindre des publics qui sont plus difficiles à atteindre si on leur donne justement un fichier, un Python à exécuter.
Merci. Il y a des questions.
Moi, j'ai une question. Voilà. Du coup, c'est dans l'impératif fonctionnel, vous expliquez. En fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que pour moi, dans l'impératif fonctionnel, vous avez deux notions. Vous avez la fiabilité et l'efficacité. Donc, sur l'efficacité, je vous rejoins sur la performance, etc. Et on peut discuter ce que ça veut dire être efficace. Mais par contre, vous avez aussi quand même un impératif de fiabilité, qui est du coup, si vous n'avez pas la fiabilité, ben on peut pas, par exemple, discuter si toutes les 5 minutes où il y a quelque chose qui coupe, si l'API, quand vous allez sur Wikidata, un coup sur deux, elle vous renvoie quelque chose qui est faux, qui ne correspond pas, ben du coup, vous pouvez pas utiliser l'outil. Donc en fait, dans cet impératif de fonctionnel, il y a deux notions qui est du coup, bon, l'efficacité, je vous rejoins sur ce que vous décrivez dans l'éloge du bug. En revanche, sur la fiabilité, il faut avoir une fiabilité pour pouvoir justement collaborer, travailler, etc. Et c'est là où, par contre, je vous rejoins sur quelque part la communauté qui va ou l'oisiveté qui va venir en fait peut-être avoir l'autonomie utilisateur pour pouvoir générer cette fiabilité. En fait. Et du coup, ma question, c'est est-ce que dans votre impératif fonctionnel, vous ratez pas cette idée de fiabilité ? Je sais pas si j'étais...
Super clair et super intéressant, fiabilité. Je l'écris pour ne pas oublier. Merci beaucoup, c'est une super remarque. Alors, deux éléments de réponse. Le premier... Je suis d'accord avec vous. En effet, c'est super intéressant de faire cette distinction-là entre donc l'efficacité, donc l'impératif fonctionnel. Et c'est comme ça que j'entends l'impératif fonctionnel. Hein. En réalité, je pourrais en faire une définition plus longue. Je sais pas le moment ici, mais pour moi, l'impératif fonctionnel, c'est vraiment le fait que les seuls buts possibles de nos actions soient en dernière instance, le fait de produire de la richesse. Donc, c'est oui ce que vous appelez efficacité, en effet. Donc, c'est vraiment l'impératif fonctionnel tel qu'on le voit. Et là, je reprends Francesco Orlando, un théoricien de la littérature, qui fait une interprétation particulière de cet impératif fonctionnel tel qu'il émerge, selon lui, au 19e siècle avec la première révolution industrielle. Donc, ça, c'est en effet, quand je parle d'impératif fonctionnel, je parle fondamentalement d'efficacité et pas de fiabilité. Donc, il faut que ça marche dans l'essence, il faut que ça produise de la richesse, il faut que ça performe dans l'essence vraiment capitaliste du terme. Fiabilité. Donc, en effet, c'est une autre chose. En même temps, donc je dirais que en effet, ça ne rentre pas dans l'impératif fonctionnel, c'est-à-dire qu'on peut ne pas respecter, ou l'impératif d'efficacité, pour utiliser vos mots, on pourrait donc ne pas respecter l'impératif de fonctionnalité, d'efficacité, mais... avoir un impératif de fiabilité. Mais à mon avis, la beauté du bug, c'est que il questionne aussi cet impératif-là. Pourquoi ? Parce que le risque de la fiabilité, tel que vous la décrivez, c'est un risque d'impossibilité, de naturalisation de ce qui est fiable. Alors vous avez fait deux exemples en parlant. Vous avez parlé de l'API de Wikidata qui ne me renvoie pas les données ou qui me renvoie des données pas toujours la même chose ou en tout cas qui dysfonctionne. Hein. Et puis vous avez fait l'exemple de la vidéoconférence si ça bloque toutes les deux minutes, on peut pas discuter. Bah en fait oui c'est vrai, mais moi j'aime quand ça bloque et j'aime quand ça bug parce que quand justement le logiciel de vidéoconférence ne fait pas ce que j'attends de lui, il m'oblige à me questionner sur des choses. Il m'oblige à me questionner, par exemple, sur la bande passante que je suis en train d'utiliser, sur l'infrastructure qu'il y a derrière, sur le protocole de compression des images, sur le format utilisé, etc., etc. Et ce questionnement-là, à mon avis, est très riche aussi. C'est clair que si c'était jamais fiable, peut-être ça serait un problème. Mais même chose pour l'API Wikidata. En fait, quand ça marche pas, les fragilités des systèmes techno-sociaux, bah en fait sont très chers parce qu'ils permettent déjà de comprendre quels sont les présupposés épistémologiques derrière et ils comprennent aussi de mettre en question la fiabilité. Ce qui est toujours important, à mon avis, une fiabilité totale serait un cauchemar parce que c'est l'impossibilité d'une pensée critique. Hein, c'est vrai, c'est comme ça, ça marche, c'est fiable. En fait, ces marges de non fiabilité sont à mon avis aussi fondamentaux, même si je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on peut faire la distinction entre efficace et fiable et que alors qu'on peut faire une critique radicale peut-être et totale et tout le temps une critique de l'efficacité, bah en fait la fiabilité, non, il faut plutôt chercher une fiabilité et c'est ce qu'on fait, mais sans pour autant être trop énervé quand c'est pas fiable. Au contraire, je pense qu'il y a une richesse aussi dans ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre remarque. En tout cas, je note cette différence entre fiabilité et efficacité qui est très juste.
Alors, c'est pas vraiment une question, c'est pour aller un petit peu apporter de l'eau au débat. Vous parlez d'oisiveté, de faire du travail. C'est pas forcément performatif, mais moi ce que j'aime bien, je fais de la fouille de données. Souvent j'ai des chercheurs qui viennent me voir et me disent je voudrais avoir une carte de ça. Alors soit je vais chercher les données complémentaires, soit les modifie, mais à chaque fois je dois m'approprier le jeu de données, je dois le comprendre, et il y a de la sérendipité. Et des fois je me retrouve à dire qu'est-ce que c'est que ce terme, et je suis obligé de creuser parce que je suis pas économiste, j'ai un peu quelques notions de géographie. Et donc, j'ai oublié de m'approprier quand même le sujet du chercheur. Et ça, je trouve ça super intéressant. Donc, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, vous dites de l'oisiveté, mais j'appelle ça la sérendipité.
Oui, c'est merci beaucoup. Oui, ça va complètement dans mon sens. Bah en fait, ce type de pratiques-là, en fait, sont des pratiques qui montrent à quel point ce travail de bricolage presque manuel est un travail profondément théorique. C'est-à-dire que concrètement, il demande tout le temps des approfondissements, des appropriations, des recherches, et en fait des appropriations, quand vous dites il faut que je m'approprie, ben en fait vous participez activement à la production d'un modèle épistémologique, parce que vous ce que vous implémentez dans votre algorithme à la fin, c'est votre modèle épistémologique. Donc c'est votre compréhension du problème des recherches, c'est votre compréhension de justement c'est quoi cette entité là, est-ce que je peux dire que cette chose là a des coordonnées ou pas, oui non, voilà, bon, enfin l'ensemble des questions que ensuite vous vous posez en faisant ces recherches, deviennent le modèle théorique qui porte le projet après. Donc ça c'est pour ça que je dis toujours, faut dire aux chercheurs qu'il faut faire attention à dire ah bah ouais après moi j'ai dit quoi faire et puis il y a l'ingénieur qui m'a fait ça. Bah en fait c'est l'ingénieur qui a décidé quoi faire. Très souvent c'est l'ingénieur qui a pensé, parce que les questions précises, les questions épistémologiques précises, en fait on se les pose. Je pense que vous avez toutes et tous cette expérience-là, parce que sinon vous ne seriez pas dans cette salle. C'est quand on se rend compte, par exemple, ah mais là c'est pas possible, c'est pas possible de penser ça, parce qu'il y a par exemple une structure des dictionnaires qui empêche d'avoir une clé à une certaine, à un certain endroit où vous ne pouvez pas avoir une chose d'un côté et de l'autre. Et en fait, vous vous dites, bah non, je ne peux pas faire ça. Mais ça, ce sont des découvertes théoriques super intéressantes. C'est pas une limite technique. C'est des découvertes théoriques sur le modèle formel qui est derrière. Donc, ce sont des donc c'est ça que j'aime beaucoup. Et ça aussi peut-être fait partie de la sérendipité, hein. Quand on découvre des choses parce qu'on les a cherchées, parce qu'on les a trouvées par hasard, ou parce que la technique nous a obligés d'aller les chercher, nous les a révélées.
Oui. Oui, si on se place dans le cadre d'un dialogue avec justement un collègue enseignant-chercheur, est-ce que le notebook serait pas un média, un dispositif maïeutique aussi?
Ah bah tu sais que j'aime bien Socrate, donc ouais, tout à fait. Bah en fait, il faudrait. Alors je l'ai beaucoup utilisé avec des étudiants justement, mais pas beaucoup avec des collègues. Il faudrait peut-être essayer. J'ai jamais essayé ça. Donc en effet, on pourrait essayer de dire trouvez vous-même la solution et mettre en place des oui, pourquoi pas. En effet, c'est très intéressant. Est-ce que tu as des usages dans ce sens-là?
Bah avec ici des... moi j'ai des collègues Wikidata. Ouais. C'est laborieux mais oui, parce que donc, les termes de graphes, bah oui, le terme de réseau et de graphe, quand tu es sur les graphes de connaissances, c'est pas la même chose que les réseaux en théorie des graphes en géographie.
C'est
très, très polysémique en fait. Et du coup, de faire comprendre ce qu'est un graphe de connaissances, c'est pas évident.
Et du coup, tu le fais faire en les faisant, en leur faisant mettre la main dans des notebooks?
On a coécrit.
Coécrit. Ok.
Ça me permet de rebondir. À midi, on avait une discussion et Emilien Schultz parlait de cet outil que tu n'as sans doute pas vu passer si tu ne vas pas sur Colab. C'est mon cas aussi, mais il se trouve que Colab ou Google vient de sortir ce qu'on appelle. C'était quoi? C'était Notebook LLM? Notebook LM?
Bien sûr que je les connais, bien sûr, je les connais.
Donc tu as vu cette maïotique ou cette conversation audio autour d'un article, autour d'un texte?
Donc Notebook LLM c'est du RAG, hein, c'est des techniques des RAG de base avec beaucoup de forces computationnelles. Assez intéressant parce que c'est une manière un peu plus experte d'utiliser des LLM. Mais bon, là, je parlerai vraiment pas de maïotique. Je trouve que il y a sans doute des choses intéressantes par rapport à une utilisation de LLM avec des techniques de RAG, mais là il y a selon moi plus de problèmes que d'avantages. Il y a les problèmes du coût computationnel absolument absurde. Il y a les problèmes aussi de la tendance à la performance qui est très dangereuse, hein. Là c'est l'effet de dire au lieu de lire une thèse, bah je la mets sur notebook LLM et puis je lui demande un rapport et comme ça je peux lire plus de thèses. Et en fait on rentre complètement dans cette idée, ou d'articles, hein. Fais-moi les résumés des 400 articles. L'audio c'est aussi un autre système, hein, de remplir nos vies en détruisant la différence entre travail justement et le reste de la vie, où je te crée un podcast à propos de 15 derniers articles que t'as pas le temps de lire parce que tu dois produire plus. Donc moi là je vois beaucoup de dangers, sans condamner du tout l'approche, hein. C'est je l'utilise beaucoup, je dois avouer, mais justement je l'utilise dans les cadres de cette pression immense de production qui caractérise nos universités. Quand tu me donnes 400 mémoires à lire, au bout d'un moment, je t'en fous, hein, sur notebook LLM, puis il me fait un résumé. Et puis, en effet, il écrit des très bons rapports, parce que de toute manière, puisque cette partie-là de notre vie des chercheurs est complètement du blabla, bah très bien, pour écrire une demande de financement, l'évaluer, etc., pourquoi pas utiliser ce type d'approche. Mais je suis pas sûr qu'on puisse rentrer là-dedans. Pourquoi je suis pas sûr? Parce que le LLM à la base, le modèle qui est à la base est un modèle très pauvre théoriquement. Donc c'est le modèle de l'hypothèse distributionnelle basée sur une tokenisation induite qui est derrière tous les LLM d'aujourd'hui à une valeur scientifique égale à zéro. Donc, il n'y a aucune expertise là-dedans. Il prévoit les prochains tokens sur la base d'une série de vecteurs qui sont calculés juste en entraînant. C'est une multiplication des matrices faites sur des tokens qui ne sont pas des mots non plus. Donc, il n'a même pas l'idée de mots. Il a l'idée des tokens. Je ne sais pas si vous avez utilisé déjà, vous avez un peu joué avec les tokenizers de GPT-3. C'est affolant. Si il s'appelle TikToken. Vous pouvez faire un import TikToken sur Python et puis vous pouvez l'utiliser. C'est affolant ce qu'il fait. Donc il a aucune idée de ce qu'il fait. Donc ça c'est une chose. Puis justement l'ERAG est une technique très problématique aussi, hein, parce que en fait, vous savez comment ça fonctionne. On met juste un prompt derrière, c'est répond à partir de ce texte-là, avec des fenêtres qui sont toujours assez floues, donc on ne sait pas combien de choses il tient en compte et combien il oublie, et avec le fait que tous les modèles qui existent avant, donc le modèle pré-entraîné, bah en fait, on n'a aucune idée de ce qu'il va faire et de quel poids il va donner au prompt qu'il a reçu. Donc en fait, la fiabilité scientifique est vraiment zéro. Hein. Voilà. Donc j'aurais beaucoup plus de réserves par rapport à Notebook LLM et en général aux approches LLM.
Il y a d'autres questions et combien de temps il nous reste?
Je crois qu'on est dans les délais.
Moi, j'en ai d'autres, mais du coup, je vais laisser tomber les questions, justement, modèle prédictif, qui est pas trop la question ici, mais plutôt pour revenir à revenir au notebook, en fait. Je trouve que ce qui est intéressant dans le notebook, comme objet d'écriture et aussi objet de publication, c'est vraiment un déplacement de la valeur, du résultat vers la fabrique du résultat. Et donc voilà, je me demandais si tu avais, si tu avais quelque chose à dire sur cette question-là, que ce soit en tant que chercheur dans ta pratique. Je pense aussi à cette discussion qu'on a pu avoir un jour où tu déplaçais aussi l'idée même de conceptualisation vers l'algorithme en disant les nouveaux concepts littéraires, pour reprendre tes recherches sur la littérature ou sur les lettres, les études de lettres. Les nouveaux concepts que l'on peut produire maintenant ne sont plus des termes, ne sont plus des notions, ça doit être des algorithmes. Et c'est à travers les algorithmes qu'on redéfinit des concepts littéraires. Voilà, est-ce que tu pourrais nous reparler de cette fabrique-là, cette fabrique conceptuelle?
Tu vois un lien entre deux choses que dont j'avais pas forcément pensé les liens, mais en effet, il y en a un. Merci. Donc je vais essayer de d'aller dans son sens. C'est-à-dire que il y a une dimension de fabrique qui me semble super intéressante pour plusieurs raisons. La première est celle de aller contre cette rhétorique de l'immatérialité. C'est-à-dire comme si le sens et tout ce qui était important, la pensée, etc., était quelque chose qui restait abstrait. Et puis derrière, il y a des gens qui mettent les mains à la pâte, mais ça, c'est pas important. C'est juste l'incarnation matérielle d'une chose supérieure qui reste l'idée. Et là, ce qui m'intéresse et ce qui me plaît de cette approche, qui est aussi celle des notebooks, c'est le sens est la manipulation, le sens est la matière, le sens est comment ce dictionnaire est structuré concrètement, où sont les clés, où sont les valeurs, comment cet API est structuré, quel filtre il y a. C'est ça le sens, c'est ça l'idée. Il n'y en a pas une autre qui soit désincarnée. Donc ça, c'est les côtés fabrique. Et du coup, évidemment, mon discours théorique qui n'est pas implémenté, qui ne se manifeste pas via cette fabrique-là, en fait, mon discours théorique n'est pas très intéressant. Donc ça, c'est d'un côté. Et en effet, il y a par rapport à certains projets que je fais, Donc là, tu parles en particulier de YAL qu'on a appelé pour être financé, hein, en utilisant toute une série de stratégies que j'aborde, mais qu'il faut utiliser si on veut survivre à l'université. Donc intelligence artificielle littéraire. Je déteste déjà l'expression intelligence artificielle, mais bon, enfin, on l'a utilisé, on a été financé, donc c'était la bonne stratégie. Donc YAL est un projet qu'on fait sur l'anthologie palatine. Mon idée de base était de dire que au lieu d'utiliser des algorithmes pour trouver des résultats, justement, donc on va les utiliser pour définir des concepts. Donc là, dans ces cas, c'est l'anthologie palatine, donc c'est un recueil d'épigrammes, hein, en grec, et en fait, dedans, il y a ce qu'on appelle des variations, c'est-à-dire qu'il y a un épigramme, puis il y a un autre épigramme qui dit plus ou moins la même chose. Puis si on regarde, les philologues ont donné des définitions de ces concepts de variations, mais très souvent des définitions très vagues. Alors, il y a une épigramme qui raconte la même histoire, mais en utilisant des synonymes, pas les mêmes mots, etc. Donc, c'est très flou. Hein, et en fait, pas seulement c'est flou, mais c'est aussi, parfois, les philologues ne sont pas d'accord entre eux. Est-ce que ça, c'est une variation ou pas? Non, c'est pas une variation, c'est un topos. Bon, enfin. Et en fait, alors, une approche, hein, l'approche un peu fonctionnaliste, aux humanités numériques, serait de dire, je te fais, fais-moi un algo qui trouve toutes les variations, comme ça, moi, je m'épargne la fatigue, l'effort d'aller les chercher moi-même. Et en fait, pour moi, c'est l'inverse. C'est non, d'abord, on cherche toutes les variations. Ensuite, j'ai défini un algorithme qui doit trouver exactement les mêmes variations que j'ai trouvées moi. Si l'algorithme trouve exactement les mêmes variations que j'ai trouvées moi, ça veut dire que ma définition du concept des variations, ma définition formelle, est juste et non ambigu. Si mon algorithme ne trouve pas les variations que j'ai identifiées, ça veut dire qu'en fait, je ne sais pas ce que c'est qu'une variation. Moi, je ne sais pas, pas l'algorithme. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une variation, parce que je n'ai pas été capable d'en donner une définition formelle. Donc, le travail de modélisation, donc tu vois, c'est pour ça, c'est en effet ce que tu as appelé la fabrique. Donc là, c'est vraiment un travail de modélisation formelle qui s'est fait en bricolant. Là, on utilise beaucoup les Jupyter Notebook pour faire ça. Notamment, il y a dedans, dans ces projets, il y a Dominique Forêt, Yann Audin, Mathilde Verstraat, pour citer les noms qui me viennent à l'esprit, mais il y a d'autres personnes. Elsa Bouchard. En fait, là-dedans, c'est vraiment un travail de modélisation qu'on fait. Et qu'est-ce qu'on modélise? On modélise les concepts de variation. Mais ces concepts ne sera bien défini que lorsque l'algorithme va être capable de trouver les mêmes choses que moi, je définis comme variation. Là, ça va être l'algorithme va être la définition formelle des variations. Et à mon avis, oui, en sciences humaines, il faudrait de plus en plus travailler à des définitions formelle bien structurée pour éviter un des problèmes à mon avis en sciences humaines. Je suis un grand réductionniste positiviste, j'aime pas les définitions floues, et j'ai l'impression que beaucoup de discours en sciences humaines, hein, ça Wittgenstein le disait, il y a pas des problèmes philosophiques, il y a juste des problèmes de définition, hein, il y a juste des problèmes de langue. La plupart du temps en sciences humaines, on discute des choses dont on sait pas ce que c'est, et peut-être si on essayait de comprendre ce que c'est que la variation, de donner une définition formelle des variations, on pourrait éviter de faire des guerres entre des philologues. Ça dépend de comment on définit les choses. Puis on peut en avoir une autre, deux définitions formelles vont fonctionner. Donc ça, c'est dans les projets YAL, on fait ça, mais on fait ça aussi avec IAML, les langages artificiels de Pierre Lévy, hein, qui oblige à donner des définitions formelles des concepts. Donc c'est une autre approche. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de jouer avec IML, avec des Jupyter Notebook, justement pour mettre ensemble cette dimension discursive et la dimension de computation symbolique dans son cas.
Merci beaucoup. Merci Marcello.